On va voir. En fait, je me suis trouvé à la financiarisation de nos sociétés de manière tout à fait fortuite. C'était fin 99 et c'est une revue anglo-saxonne qui préparait un numéro, une espèce d'actualisation de Made in France. Donc, de dire où ça en était, hein, qu'est-ce qui avait changé depuis l'époque où j'avais fait Made in France, c'est-à-dire depuis 92-93, donc depuis 7-8 ans. Et donc, je me suis mis au travail, parce que je trouvais que c'était une belle idée, hein, de voir un peu qu'est-ce qui avait bougé. C'est une idée tellement belle que j'y suis toujours, hein, et que j'espère bien le publier un jour. Et donc, c'est un peu une première, hein, à laquelle vous allez avoir droit. C'est un peu Made in France 10 years ou 12 years after. Ce qui m'a frappé dès cette époque-là, quand j'essayais de pointer les changements majeurs, hein, depuis l'époque de Made in France, eh ben justement, c'était déjà en 99-2000 l'envahissement général de la finance dans les rapports sociaux fondamentaux de l'économie française. Je dois dire que moi, personnellement, hein, j'ai eu un vrai choc, hein, de rencontrer à ce point la prégnance de la finance dans tous les rapports fondamentaux. Alors, on peut les définir comme on veut, mais dans ceux de la théorie de la régulation, par exemple, hein, les 5 rapports fondamentaux, le travail, l'insertion internationale, l'État, etc., etc., il y avait un envahissement général de la finance. Alors, depuis, d'ailleurs, je n'ai pas cessé de travailler sur ces thèmes et sur ces sujets. C'est l'époque où Michel Aglietta commençait à émettre ses thèses sur la formation d'un régime d'accumulation patrimoniale, c'est un beau lapsus, donc lui-même basé et tiré par la finance. Je trouvais ces propositions très très audacieuses, et la raison pour laquelle je les trouvais audacieuses nous met au cœur de la discussion que je souhaiterais avoir aujourd'hui. Pourquoi je la trouvais audacieuse? Non pas parce que il pointait le rôle dirigeant et dominant de la finance dans l'enchaînement des rapports sociaux fondamentaux. Sur ça, moi, assez vite, j'étais assez d'accord. Je sais qu'il n'y a pas d'unanimité parmi les économistes là-dessus, mais moi, je soutiens cette thèse. Bon. Ce qui me paraissait beaucoup plus discutable, c'était cette idée que la finance pouvait être à l'origine d'un régime d'accumulation, au sens de la régulation, c'est-à-dire d'un mode d'accumulation doté d'une certaine régularité, stabilité, à travers le temps. Or, moi, en bon keynésien, puisque c'est l'une des sources de ma formation, ce n'est pas la source principale, mais c'est l'une des sources de ma formation, j'ai toujours appris que la finance, c'est le feu, qu'il faut faire l'euthanasie des rentiers, que la finance, elle est par essence spéculative, voir les travaux Keynes-Kaldor. Et donc, j'étais très très surpris de voir affirmer la possibilité d'un régime d'accumulation stable tiré par la finance. Ça, c'était ma première perplexité. Pas l'hégémonie de la finance, hein, mais le fait qu'on puisse sur cette base voir des régularités très durables en termes de régime d'accumulation. C'était ma première perplexité. La deuxième perplexité, elle a trait avec vos préoccupations dans ce séminaire. C'est que Made in France, l'une des choses qu'on avait pointées, c'était précisément la montée des dimensions cognitives dans l'économie, sous différentes formes, hein, à travers la montée des intangibles, du rôle de la propriété intellectuelle, de la complexité du travail, etc. Et en particulier, et c'était même le propos essentiel de Made in France, et d'ailleurs de ce point de vue, moi je l'assume toujours, et de ce point de vue, donc, c'est, encore une fois, c'était l'un des propos essentiels. Ce qu'on soutenait, c'était que dans ce monde gagné par l'immatériel, l'intangible, etc., se faisait jour quelque chose qu'on nous on a comme la montée de la compétitivité qualité dans un univers de compétition. Hein, on peut évidemment discuter, contester, etc. Mais enfin, si on le considère, voilà. Et la montée de la compétitivité qualité, supposée dans nos formulations, précisément l'investissement en travail, l'investissement en formation, l'investissement collectif, cognitif de la coordination, aussi bien intra-interentreprise, etc. Toutes choses qui, en premier examen, dans une tension fondamentale avec la manière même dont opère la finance. Le propre de la finance, c'est d'opérer suivant des évaluations extrêmement rapides, c'est d'accélérer toutes les anticipations, et c'est, bon, pour ne pas parler du short-termisme, c'est la cécité fondamentale, hein, de la finance au regard de ce que sont les grands mouvements fondamentaux de l'économie. Kindleberger, bien d'autres, parlent de l'aveuglement nécessaire de la finance comme opérateur. Bon. Et donc, je me disais, c'est quoi ces économies de la finance jouent ce rôle dirigeant, moteur, ce rôle de pilote, y compris dans les évaluations les plus fondamentales, celles de tous les actifs. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle on va, où la finance joue ce rôle, alors que les exigences de coordination cognitive, l'exigence des chemins, la force des passes, des tendances, etc., sont essentielles. Voilà. Donc c'est ça les questions que je me suis posées et qui, je crois, peut-être pas formulées sous cette forme, vous intéressent aussi, et en tout cas c'est celles dont j'aimerais débattre. Alors, comme c'est évidemment un vaste programme, comment faire ? Donc moi ce que je vous propose, c'est la chose. Je vais finir par la manière dont je perçois que la finance gère sa contradiction avec le travail. Donc je vais finir sur ça, donc sur finance, travail, emploi, etc. Mais avant de venir sur ça, il me paraît tout à fait indispensable de dire avec la finance dans les modes de coordination dans nos sociétés, avec l'émergence de la finance. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Parce que ça ne sert à rien de dire la finance dirige, domine, etc., si ensuite on doit avoir les mêmes représentations de comment fonctionnent nos économies. Si elle joue un rôle dominant, dirigeant, si elle se substitue à d'autres modes, il faut être capable de pointer en quoi et pourquoi. Donc je vais dire quelques mots là-dessus. Pour moi, c'est une discussion, mais ça supposerait un séminaire entier. Hein, donc je vais procéder sous forme télégraphique. Puis deuxièmement, avant d'en venir au travail proprement dit, il y a une médiation essentielle, hein, en finance et le travail, c'est celle de l'entreprise et de l'organisation industrielle, si on peut dire, mais j'emploie ici organisation industrielle au sens anglo-saxon, hein, industrial organization, de comment est faite la société d'agents et d'acteurs économiques, quels sont les rapports entre eux, etc. Donc l'idée c'est ça, hein, d'abord qu'est-ce qu'il y a de neuf avec l'hégémonie de la finance. Comment elle opère sur l'entreprise et la coordination inter-entreprise, et de là, comment ensuite elle opère. Et je terminerai. On y va sur le premier point. Alors, sur le premier point, je vais être très, très rapide parce que sinon il faudrait y passer énormément de temps. Quoi ? La financiarisation de l'économie. La financiarisation de l'économie, c'est l'opération au sens de des opérateurs, hein, c'est la mise en mouvement, voilà, c'est la mise en mouvement, la mise en opération, la mise en opération de deux grands opérateurs, je dis bien conjointes, parce qu'ils se renforcent l'un l'autre, qui sont la liquidité et la titration. Alors, sur la liquidité, on peut aller vite, en tout cas, moi, je peux aller vite, dans la mesure où ce que j'appelle la liquidité, c'est ce que Orléans définit comme liquidité, c'est-à-dire le fait qu'on a réussi, à travers une série de mutations qui ont trait à la déréglementation financière, à la manière dont elle a opéré, à constituer des marchés extrêmement profonds, liquides parce que les actifs sont représentés dans des titres qui peuvent être les marchés dérivés, les risques eux-mêmes peuvent être assurés, réassurés, etc. Bon, ça, c'est le facteur absolument nouveau. On est dans une société dans laquelle la liquidité règne. Par ailleurs, je le dis tout de suite, il n'y a pas, comment dire, il y a, ça, il n'est pas fortuit que l'on parle de liquidité dans le domaine de la finance et de flexibilité dans le domaine du travail et de l'industrie. Hein, vous voyez bien sûr qu'il s'agit de deux modes d'opération d'une même détermination. Bon, donc sur la liquidité, on peut y revenir, j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'a fait Orléans, qui à mon avis est décisif, essentiel, qui a vraiment une durable portée, indispensable, à mon sens, hein, à la compréhension de ce qu'est la finance et de comment elle opère. Ce sur quoi j'insisterai peut-être plus ici, parce que ça c'est moins dit, et c'est l'alter ego, c'est l'autre facilité, c'est ce que moi j'appelle alors du coup la titrisation de l'économie. Alors qu'est-ce que c'est que la titrisation? La titrisation, c'est le fait que de plus en plus, industriel comme individuel, c'est-à-dire patrimoine des entreprises comme patrimoine des ménages, se trouve désormais représenté dans des titres qui sont eux-mêmes négociables sur des marchés plus ou moins liquides. Et c'est en ce sens que liquidité et titrisation marchent de pair. La liquidité s'accroît d'autant que la titrisation, et la titrisation et la tendance à titriser est d'autant plus grande que l'on sait qu'il y a les marchés liquides qui vont permettre d'absorber ces processus de titrisation. Pour ceux qui font de la finance ici, s'il y en a qui en font dans un sens technique, j'emploie la notion de titrisation dans un sens très très élargi. Techniquement, la titrisation dans la finance, c'est lorsque une banque a des dettes et que pour s'en défaire, elle titre ses dettes qu'elle vend dans le public et elle transforme comme ça un passif en un actif, quitte à faire de la perte en ligne. Et donc, vous voyez, c'est une forme de liquidification de sa dette qui s'accompagne d'une perte nominale. Voilà. On appelle aussi titrisation, les grandes titrisations auxquelles on a procédé dans les 20 dernières années, c'est les titrisations de la dette publique, hein, par lesquelles, je dis ça pour technique, donc par lesquelles les États, à travers le Trésor, ont mis dans le public les titres de la dette qu'ils avaient contractée, soit auprès du particulier, soit auprès des placeurs divers, et transformé leur dette en un marché négociable, ce qui, évidemment, c'est un très, très grand avantage. Bien, alors, c'est des formes d'opération, hein, de coordination dans la société. Alors, l'opérateur de base, bien sûr, c'est l'investisseur institutionnel, la forme la plus, visible, hein, étant le fonds de pension. Alors, se sont constitués les fonds de pension, et notamment, évidemment, les grands fonds de pension américains, doit retenir toute l'attention, surtout pour nous qui nous intéressons au travail. Je vais le dire comme ça, hein, sous une forme un peu imagée, ce qu'il y a de fantastique avec le fonds de pension, c'est l'ami de l'intérieur, parce qu'il vient de l'intérieur même, avant d'être d'épargne salariale, avant d'être de l'épargne salariale, il vient de l'intérieur même du salaire. C'est au départ le salaire indirect qui au départ était dû et versé, je parle pour les États-Unis ici, hein, qui était dû et versé uniquement par l'entreprise. Hein, les premiers fonds de retraite étaient dus et versés uniquement par l'employeur. Et qui, à travers la loi ERISA en 78 et à travers le 401K la loi ERISA en 70 et le 401K en 78, sont devenus de l'épargne placée entre les mains d'institutions qui ont concentré cette épargne et qui ensuite, j'anticipe un tout petit peu sur mon deuxième point, et qui ensuite, cette épargne désappropriée, ce salaire séparé du salaire, approprié par des opérateurs autonomes et externes, des investisseurs institutionnels, va devenir l'outil, nous y sommes, à travers la sécurisation, la sécurisation et la liquidité, qui va s'emparer des entreprises et une deuxième fois se retourner contre le travail. Il y a quelque chose comme une boucle assez vertigineuse, hein, dans ce à quoi on a assisté dans le cours des 20 dernières années, et comment il va s'emparer, se retourner contre le travail, j'en parle. En tout cas, Voilà, on a un triptyque titrisation fonds de pension qui s'est constitué à travers des rapports de force extrêmement complexes, à travers réglementations et déréglementations infinies. Il n'y a aucun processus naturel dans tout ça. Hein. Ça a été, comment dire, bien sûr, des jeux d'acteurs hein, qui ont forcé des passages, mais aux affaires légales, etc., dûment construites par la puissance publique. Bon, je regrette qu'il ne soit pas là, parce que c'est une discussion que j'aimerais poursuivre avec lui. Pour ceux qui étaient au dernier séminaire hétérodoxie à Paris 1, il y a eu une petite discussion, j'ai eu une petite discussion avec Michel Aglietta, sur la précisément la multiplication des marchés dérivés, la constitution comment dire, la multiplication de l'industrie financière, et Michel disait mais ce qui est arrivé dans l'industrie financière, à savoir la division du travail, la spécialisation, c'est un processus naturel, c'est celui qui a l'industrie. Bon, alors j'avais envie de dire mon œil, il n'y a rien de naturel dans tout ça. Moi, je travaille beaucoup sur la pharmacie, mais ni sur l'automobile, etc. Là, tout ça est réglementé de haut en bas, et l'ensemble des possibilités de développement de la division du travail sont intimement liées à l'état de la législation qui ouvre ou n'ouvre pas un certain nombre de possibilités. Le hedge fund, s'il se développe comme il se développe, c'est parce qu'il n'est pas obligé de se déclarer. Et s'il pratique les opérations qu'il pratique, c'est parce qu'il est en dehors du contrôle. Il ne faut pas du tout me dire que ceci est naturel, que ça correspond à, enfin, je veux dire, c'est une lecture de Smith naturaliste. Bon, je croyais qu'on en avait fini avec ça. Donc j'ai été très très surpris. Je passe. Mais c'est pour dire que tout ça est lié à une réglementation extrêmement complexe. Bien. J'en viens donc à mon deuxième point. Comment ce triptyque, titrisation, liquidité,